Bonjour et bienvenue au podcast Parole inclusive. Je suis votre animatrice, Vanessa Neal. Nous enregistrons aujourd'hui dans le hangar de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal lors de l'événement Horizon organisé par CAMAC, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale du Québec. Tout d'abord, Horizon est un événement qui souhaite réunir les membres des communautés sous-représentées, les centres de formation, les représentants d'entreprises, ainsi que les personnes intéressées à intégrer le milieu de l'aérospatiale et l'aéronautique. À cette occasion, la journée est dédiée au partage, à la découverte, l'expérimentation et la projection au travers de plusieurs activations immersives, telles des ateliers, des conférences, animations, visites et bien plus encore. Le tout dans le but d'aller plus loin ensemble, propulser de nouvelles approches, co-construire le futur et regarder vers l'avant. C'est donc avec cette belle introduction que je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs, à ce troisième enregistrement de Parole inclusive. Ce podcast est dédié à faire valoir l'inclusion, la diversité et l'innovation dans les métiers de l'aérospatiale et démontrer la force de la diversité au sein des entreprises du domaine. Chaque enregistrement souhaite explorer une thématique de l'EDI, c'est-à-dire l'équité, la diversité et l'inclusion dans le domaine de l'aérospatiale. Afin de partir notre bal, notre troisième sujet de discussion aujourd'hui s'agit d'évaluer l'impact de l'équité, la diversité et l'inclusion, la voix des collaborateurs. Alors, pour attaquer ce sujet, je suis accompagnée d'intervenantes ici aujourd'hui. Donc, je vous présente tout d'abord, je vais commencer en fait avec Ariane Gingras, directrice générale chez Horizon Travail. C'est un centre qui porte conseil pour les personnes en situation de handicap pour favoriser les jumelages professionnels entre les employeurs et les personnes atteintes d'une limitation visuelle ou d'un trouble de santé mentale. Ariane a aussi travaillé précédemment dans l'accompagnement socio-professionnel des nouveaux arrivants et en ressources humaines. Bienvenue, Ariane.
Merci beaucoup.
Ensuite, j'aimerais ça vous présenter Olivia Baker de la Fondation Émergence. La Fondation Émergence est un organisme à but non lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui a pour mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle, ainsi que la pluralité des identités et des expressions de genre. Cela inclut, mais ne se limite pas aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, binaires et non-binaires, queer, intersexes, bispirituelles, 2S, asexuelles et à l'ensemble des réalités non-binaires. Olivia va aussi offrir ou a offert une formation pro-alliée sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milieu de travail, aujourd'hui à l'événement Horizon CAMAC. Bienvenue, Olivia. Et finalement, notre troisième intervenante, Marie-Isabelle Gendron, spécialiste technique en moteur turbine d'avion et hélicoptère chez Pratt & Whitney, qui est une compagnie de fabrication de moteurs de turbines à l'échelle internationale. Marie-Isabelle aussi est gouverneure à la Fondation Émergence et thérapeute en relation d'aide. Bienvenue, Marie-Isabelle. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, mesdames. Alors, j'apprécie vos précieux apports ici en tant que collaboratrice, évidemment, de notre milieu, le milieu de l'EDI. Alors, commençons donc à évaluer l'impact de l'EDI. Donc, je commence avec une toute première question, je vais la lancer à l'ouvert. Quels sont les défis et obstacles courants auxquels vous avez été confrontés lors de votre intégration dans une entreprise? Donc là, c'est sûr que je pose la question à la personne, donc c'est pas nécessairement tout le monde ici qui a travaillé nécessairement dans le milieu de l'aérospatiale. Donc, vous pouvez répondre soit à votre titre ou bien des témoignages que vous connaissez. Je lance la balle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer? Marie-Isabelle, vas-y.
Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai l'honneur de pouvoir ici venir dans le même milieu que je travaille encore un peu.
Oui.
Parce que j'ai pris une retraite puis on m'a rappelé. Pour dire que ça montre encore que, tu sais, ils me considèrent malgré que j'ai fait ma transition. Moi, je suis né dans un corps d'homme puis j'ai travaillé là toute ma vie pour finalement faire ma transition comme femme, comme qui je suis vraiment. Mais l'impact que ça a eu lieu, personnellement, c'est énorme parce que moi, je suis devenu une meilleure employée. Les gens autour ont trouvé que c'était... que j'avais changé déjà quand je répondais au téléphone. Mm-hmm. On répond, nous autres, à des gens qui ont des problèmes techniques moteurs. Là, c'est très, très technique. Mais à compétence, mon cerveau, je disais, il n'a pas changé. Mais je me sens plus libre, plus à l'aise. J'ai plus la frustration intérieure que j'avais pour pouvoir être qui je suis vraiment comme femme. Fait que ça a eu un impact très positif. Puis avec le sourire que j'ai toujours porté, que je porte toujours, ça a une influence même aux autres aux alentours. T'sais, ils voient bien que je suis bien au travail, je suis performante, souriante. Ça a un impact très positif de se sentir bien dans sa peau puis d'être authentique au travail sans être obligé de se cacher puis jouer un personnage que j'ai joué longtemps dans ma vie. Il faut dire qu'on joue un personnage, des personnes comme moi, dans une vie pour se conformer à ce qu'on devrait être. Fait que ça a un impact positif d'être qui on est. Que ce soit une personne gay, lesbienne, diversité culturelle, quoi que ce soit, mais quand tu peux être authentique au travail, partout dans ta vie, mais tu deviens une meilleure personne puis plus productive, je dirais.
Merci beaucoup.
Moi, je travaille en ce moment auprès des personnes en situation de handicap, avant les immigrants aussi, puis j'ai pu constater qu'effectivement, ça permet les gens de s'épanouir, parce que l'emploi, c'est une grosse partie aussi de la vie, de l'intégration. Puis, c'est ça, le fait qu'il y ait de l'EDI, c'est vraiment qu'ils vont se sentir bien dans un milieu de travail, puis ça a un impact sur tout le reste de leur vie, en fait. De sentir qu'ils sont utiles à quelque chose aussi, qu'ils ont leur place. Parce que parfois, ils ont vécu justement parfois de la discrimination ou des obstacles pour arriver là. Donc, ils sont reconnaissants aussi, beaucoup de reconnaissance auprès de l'employeur qui leur a donné cette chance-là, qui devrait même pas être une chance, là, ça devrait être juste normal, mais c'est perçu comme une chance. Puis souvent, ils ont cette très grande reconnaissance, cette fidélité à l'entreprise aussi. Donc, c'est gagnant aussi pour l'entreprise de pouvoir ouvrir la porte encore plus grande.
Merci beaucoup, Ariane. Olivia?
Au niveau des défis de l'intégration, je parlerais peut-être plus de façon générale, mais c'est clair que la question du placard, dans le fond, pour les communautés qui sont invisibles, dans le fond, c'est pas marqué sur notre front. Donc, quand on est dans une communauté minorisée, c'est à nous de décider est-ce qu'on va le dire ou pas. Puis, une des métaphores que j'utilise beaucoup, c'est justement le placard. C'est une très bonne métaphore, selon moi. Quand une personne est dans le placard, c'est pas forcément un espace qui est super confortable. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai pas un walking closet, là, genre, quand on est super grand. Quand on est dans le placard, c'est pas un endroit qui est confortable, mais c'est un endroit qui est sécurisant. En ce moment, si vous pensez un peu aux films d'action ou d'horreur, là, où il y a un intrus qui rentre dans la maison, puis la personne part en courant, puis va se cacher dans le placard, c'est un petit peu ça qui est vécu. Puis quand on est dans ce placard-là, ben, on garde une oreille, on garde un petit peu une... on check ce qui se passe dehors. Là. Fait qu'on regarde par le trou de la serrure, on met l'oreille à la porte pour voir est-ce que c'est sécuritaire de sortir. Puis dans le fond, l'approche justement d'inclure l'EDI dans le milieu de travail, c'est que quand la personne va regarder par le petit trou de la serrure entre les fentes là, pour voir est-ce que je peux sortir, ben elle va se dire « OK, le milieu, il a l'air sécuritaire. » Parce qu'il y a plus de drapeaux verts que de drapeaux rouges. Fait que c'est ça, je dirais, l'impact, là, c'est de permettre à la personne de se sentir en sécurité d'être réellement elle-même.
Merci.
Puis, je pourrais ajouter, c'est souvent, ben, dans mon cas, ben, des fois, c'est souvent la dernière étape. C'est qu'on fait des transitions, on peut l'être dans notre entourage, amis, famille, puis le travail, ça, dans mon cas particulier, c'était comme la dernière étape qui a fait la boucle. Que là, je pouvais être partout. Pas juste chez moi, caché dans ma maison ou avec des amis et famille, mais si je m'intègre au travail là, mais là, c'est partout dans ma vie, tu sais. Fait que ça a un impact, d'après moi, majeur.
Entier.
C'est entier, oui. Ça fait comme, c'est inclus tout. J'ai plus besoin de me cacher. Moi, je partais de chez nous, une heure de route à faire. J'étais en billet et femme. Et puis, à un moment donné, j'arrêtais dans un garage, puis je me changeais, je mettais des pantalons, quelque chose. Et pour dire le stress que non, je peux pas parce que je vais me faire harceler, je l'ai pas annoncé. C'est comme, c'est quelque chose, là. Tu peux pas partir de chez vous différent, t'es cis femme, mais je me déchange. Tu sais, il y a comme, t'arrives au travail, puis là, whoop, là, j'embarque dans un personnage.
Mm-hmm.
C'est,
mm-hmm.
C'est difficile.
Ah, certainement, certainement. Ouais. Merci. J'aimerais vous partager la définition d'un nouveau mot français traduit de l'anglais qui s'agit du tokenisme. Alors, j'en parlais d'ailleurs avec Ariane tantôt. Je vais vous lire la définition. Donc, c'est la pratique à laquelle un groupe ou un organisme a recours afin d'inclure des personnes, des minorités, dans le but de pouvoir se targuer d'être inclusif. OK? Donc, c'est quand même un mot qu'on a entendu en anglais, là. Il a été adopté à la langue française. Donc, sur le sujet du tokenisme, parce qu'on est quand même en train d'évaluer l'EDI, connaissez-vous des témoignages et quelle est votre opinion face à ça?
Une des choses qui me vient en tête de suite quand on parle de tokenisme, c'est un peu le phénomène de l'ami gay ou du collègue gay. Puis ça, c'est un petit peu justement une répartie qu'on retrouve d'ailleurs pour toutes les communautés marginalisées ou quoi. C'est comme, oh, ben, je peux pas être homophobe, j'ai un ami gay. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce phénomène-là aussi dans le milieu de travail aussi. On va avoir des personnes qui vont être, mettons, les premières à faire un coming out et qui vont se faire demander de faire partie de genre 5 comités différents sur l'EDI, sur l'ERG, sur le tout. Puis là-dessus, c'est pas parce qu'on est une personne d'une communauté marginalisée qu'on est forcément une personne experte dans ces enjeux-là qu'on est forcément emballé et motivé à faire partie de ce genre de choses-là. En fond, ce que je dis souvent, c'est que tout le monde a énormément d'identités. Comme si je demandais à tout le monde ici de faire une liste de vos identités, là, je suis pas mal sûre qu'il y a personne qui aurait la même liste déjà. Et même pour les personnes qui ont les mêmes identités, vous les mettrez pas forcément dans le même ordre. Pour certaines personnes, être LGBT, c'est juste un détail, là. C'est juste quelque chose qui se trouve dedans, mais qui vont être beaucoup plus, tu sais, genre d'abord femme, ensuite ingénieur, ensuite un maire de famille, ensuite fan de hockey, et tout en bas de la liste, là, ça va être genre lesbienne, trans, gay, whatever. D'autres personnes, moi par exemple, c'est mon cas, puis c'est un peu ma mission de vie là, dans ma vocation professionnelle aussi, mais c'est vrai que cette partie de mon identité est beaucoup plus importante. Là-dessus, c'est ça que je veux dire, c'est pas parce qu'une personne est LGBT qu'elle est forcément intéressée à être sur un comité LGBT.
Ouais, je peux renchérir là-dessus. À moins que tu avais quelque chose, non? tu sais, moi, j'ai la parole facile, tu sais. J'aime en parler. C'est un peu comme ma mission de vie, mais je connais beaucoup de personnes trans qui veulent plus en parler, là. Je suis une femme. Ils veulent plus dire, non, je suis femme aujourd'hui ou je suis homme, vice-versa. Puis je vais faire ma vie tout simplement naturelle, sans être obligée d'expliquer tout le temps. La plupart, c'est ça. Tu sais, moi, je me suis intéressée. J'ai embarqué avec la Fondation Émergence, j'ai été dans leur conseil d'administration quelques années, me suis intéressé à ça parce que c'est moi. Mais il faut faire attention, justement. J'en connais plusieurs qui veulent pas en parler, là. Ils sont avec un homme, ils sont gays, c'est correct, c'est leur vie normale, ou femme avec femme, ou quoi que ce soit. Et ils ont fait leur transition, puis c'est fini, là. Tu sais, moi, je pourrais dire, je suis femme, là, ça finit là, j'en parle plus. Mais pour moi, c'est important de faire connaître ça. Mais de faire attention aux autres qui ne sont pas nécessairement comme moi. Hein?
Puis moi, je dirais par rapport à la question des entreprises qui, pas essayer de se donner une bonne conscience, mais affichent des choses, comme on dirait en québécois, les bottines ne suivent pas les babines. Je pense que quand même, ce n'est pas forcément juste de la mauvaise volonté. Je pense que parfois, il y a une volonté réelle qui est affichée, mais dans les faits, de passer de la volonté à la réalisation, donc ouvrir la porte, réussir à recruter, réussir à intégrer et à pérenniser, à garder la personne en poste, ça demande des outils pour les employeurs. Ça demande de l'accompagnement. Donc, parfois, il y a une volonté, mais ça se rend pas jusqu'à la réalité. Puis c'est pas juste, je pense, pour se donner une bonne confiance, même si c'est vrai que le EDI devient de plus en plus un peu à la mode, je dirais. Là, il y a quelques années, c'était pas un terme qui existait. Il y avait pas de poste EDI en entreprise. Donc, clairement, tout ça, c'est quand même des signes tangibles qu'il y a une vraie volonté d'aller vers ça. Mais il y a encore le passage de la volonté à la réalité, particulièrement pour les personnes en situation de handicap qui sont particulièrement sous-représentées. Donc, Puis ça reste quand même marginal aussi qu'on voit des offres d'emploi où c'est écrit « ouvert, nous sommes ouverts aux personnes handicapées, aux personnes LGBT ». Donc oui, il y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est peut-être réducteur de dire que les employeurs le mettent juste pour se donner bonne conscience.
Super. Oui. Puis si je peux rajouter, je pense que je suis très d'accord avec toi, Ariane. Et je pense qu'il y a aussi un peu un cercle vicieux puis un équilibre à trouver, là. Parce que souvent, ce qu'on va voir, puis moi, je l'ai vu plus quand j'étais présidente d'une association LGBT. Puis nous, notre problème, c'est que dans l'association LGBT, dans le fond, il y avait juste des gars gays. C'était vraiment juste une gang de gars. Puis moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule fille. Et ce que j'entendais quand je demandais aux gens, aux filles, justement, est-ce que vous voulez rejoindre et tout, ben non, c'est juste des gars. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de personnes visibles qui font partie de cette communauté-là, les autres ne vont pas vouloir venir parce qu'ils se disent, ben, s'il n'y en a pas, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et du coup, c'est un petit peu ce truc où des fois, pour réussir à avoir une réelle diversité et inclusion, des fois, il va falloir un petit peu passer par une inclusion un peu artificielle pour encourager ça. Mais là où il faut faire attention, c'est pas de tomber dans la publicité mensongère où je vois, par exemple, certaines entreprises qui vont mettre beaucoup d'efforts sur le recrutement divers à cette inclusion. Et ensuite, bah, les gens, ils sont là, puis c'est ça. Sauf que le problème, c'est justement où on va y avoir de la diversité peut-être, mais il va pas y avoir l'inclusion. Du coup, les gens, ils vont faire le tour du poteau, puis ils vont repartir. Puis là, on va se demander pourquoi est-ce que j'ai un taux de roulement vraiment élevé? Je comprends pas. Voilà.
Super. J'aimerais ça vous lire un extrait d'un article de Technologia. Les politiques d'inclusion et de diversité doivent être mises en place de manière cohérente avec un engagement de l'ensemble de l'organisation pour réduire les obstacles auxquels sont confrontés les groupes marginalisés. Quels sont vos souhaits à vous et vos attentes concernant les évolutions futures de l'EDI, notamment en termes de réglementation et d'innovation? Grosse question.
Ouais. Au niveau de réglementation, puis on en avait parlé un petit peu ce matin, là, mais l'idée que les personnes LGBTQ+ ne sont pas reconnues comme un groupe pour l'égalité à l'emploi. Donc, il y a les personnes, pour l'instant, on a les personnes racisées, personnes autochtones, femmes et personnes en situation de handicap. Mais personnes LGBTQ+ ne le sont pas. Et des fois, ça s'est pris comme un peu une excuse de « Ah, ben on peut pas faire de mesures parce que c'est pas un groupe reconnu. » Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas que vous êtes pas obligés. Mais c'est pas interdit d'en faire. Mais donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait aider. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps, notamment au niveau, puis on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, au niveau notamment de l'autodéclaration, où les gens sont pas encore à l'aise de répondre dans des formulaires qui sont LGBTQ+, ce qui pose des problèmes au niveau de, ben là, il y a personne qui est LGBT, donc je veux pas faire d'efforts. Non, mais ils sont là, ils sont dans le placard. Mais c'est vrai que quand on sait que... j'en reparlerai peut-être plus tard, tout à l'heure, mais il y a un historique au niveau du gouvernement, notamment de la purge, qui était une élimination systématique des personnes LGBTQ+, dans le gouvernement, des années 60 à 90. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard, mais historiquement, il y a des personnes encore en vie qui ont connu cette époque-là. Fait que quand le gouvernement leur demande s'ils sont LGBT, ils ont tendance à se dire... La dernière fois qu'on m'a demandé, c'était pas pour de bonnes raisons, fait que je suis pas à l'aise de le dire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au niveau des personnes handicapées aussi, surtout les handicaps qui sont invisibles, parce que souvent, quand on pense personnes handicapées, on pense la chaise roulante, on pense le chien avec pour les aveugles, mais il y a toute une série au niveau de la santé mentale, au niveau des de l'atypie, neuroatypie, etc., qui sont pas visibles. Puis encore là, il y a une crainte de le déclarer ou de le dire, tu sais, de... Parce que, à l'heure actuelle, les handicaps physiques sont peut-être mieux perçus que les handicaps, puis moins, font moins peur, entre guillemets, aux employeurs que les handicaps au niveau de la santé mentale. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a ce côté de non-déclaration. Puis, qu'est-ce qu'on souhaitait pour le futur ou qu'est-ce qu'on. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de visibilité pour les personnes en situation de handicap. Je trouve qu'il y a un très beau travail qui a été fait pour les immigrants, les nouveaux arrivants. Puis beaucoup, je parlais à des gens là, dans le cadre de l'activité aujourd'hui, puis ils me disaient nous, on a plein d'immigrants, on a plein de nouveaux arrivants. Oui, puis c'est génial. Puis, mais ça serait le fun aussi que les autres diversités soient aussi. Qu'il y ait une ouverture un peu plus pour les autres diversités que nouveaux arrivants, puis que femmes. C'est sûr que ça dépend des milieux, mais que. Les autres diversités, handicapées, autochtones, LGBT, il y a un peu plus aussi de travail parce que souvent, si on faisait des statistiques dans les entreprises sur les personnes issues de la diversité, ben probablement que le ratio ou le pourcentage qu'on aurait selon des immigrants, des handicapés, serait totalement différent. Il y aurait beaucoup plus, par exemple, d'immigrants que d'handicapés. Donc, c'est pas toutes les diversités qui sont au même niveau dans leur intégration, dans leur ouverture à pouvoir intégrer des entreprises. Puis ça, j'aimerais ça que ça change, ça évolue.
Puis, ouais. Tu sais, j'entends, ça devient un défi pour les entreprises. Puis, encore là, je ne veux pas parler contre l'homme blanc. J'ai été l'homme blanc, mais j'entends un message comme quoi que eux autres, ils sont rendus discriminés parce que là, il faut qu'ils incluent les autres. J'ai entendu ça quelques fois, que là, on est obligé d'inclure, ils vont choisir une femme parce qu'il y a moins de femmes, ou vont choisir d'autres personnes LGBT parce que là, puis là, moi, j'ai pas de job à cause de ça. Fait que il y a un discours, je pense qu'il faut qu'il soit ramené à l'ordre, que tu sais, faut inclure tout le monde, puis compétences égales, comment bien mesurer ça, puis inclure la diversité, ça devient un grand défi, hein. C'est un autre genre de défi, comment les entreprises doivent s'ajuster là-dedans pour sont habituées d'engager un type de personnes pour tel travail, mais on leur demande d'aller au-delà, de regarder, supposons dans la construction, regarder les femmes dans l'ingénierie, d'avoir le plus de femmes possible aussi, mais c'est comment gérer tout ça, t'sais, dans l'entreprise, c'est un défi pour dire que oui, la personne est à compétence égale, qui tu vas prendre. Moi, c'est un autre défi, ça.
Si je peux faire du pouce, nous, on fait beaucoup la différence quand on parle, on essaie de sensibiliser ou des rencontres exemplaires entre la compétence et la limitation ou le handicap. Donc, c'est deux choses différentes. Il faut que tu vois si la personne a la compétence pour faire le poste, puis nous, on te propose cette personne-là parce qu'on pense qu'elle a la compétence. Puis après, ben la limitation, le handicap, c'est une autre partie. C'est quelque chose qu'on va adapter, qu'on va travailler, mais ça n'enlève rien à la compétence de la personne, à ses qualités. Peut-être que oui, avec son handicap, elle va avoir besoin de plus de temps pour faire certaines tâches. Peut-être qu'il y a certaines tâches du poste qu'on ne pourra pas lui laisser à elle, qu'on va devoir... Donc, il y a forcément des adaptations, mais ça n'entache pas sa compétence. Donc, voir la personne, l'humain, les compétences derrière, de pas voir juste le... comme une étiquette, une personne handicapée, une LGBT. Non, 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 c'est l'humain qui est derrière, c'est ses compétences, c'est ce qu'elle peut apporter à l'entreprise au-delà de... C'est une étiquette qui va m'aider à faire monter mes chiffres puis avoir une bonne image là, de la diversité. Non, c'est ça.
C'est d'enlever les étiquettes un peu, de considérer la personne comme un être humain puis enlever toutes les étiquettes. On n'aime pas ça, les étiquettes. Personne n'aime ça, t'sais, typiquement. T'sais, moi, je suis une femme, je mets une étiquette trans pour la cause, mais vie tous les jours, je veux qu'on me considère femme, je n'ai pas d'étiquette. Ça prend beaucoup d'éducation au niveau des entreprises puis qu'ils montent haut et fort. T'sais, que ça soit vu que les gens, puis que ça soit fait dans l'entreprise, qu'on intègre. Moi, j'ai un bel exemple, quand la compagnie elle-même, elle a fait une vidéo sur mon histoire, puis qu'elle a présenté au travers de tout le réseau interne de la corporation. Fait que c'est un message fort. T'sais, vous allez sur Internet, là, j'ai rien à gagner, mais vous tapez Marie-Isabelle Gendron, Pratt & Whitney, les vidéos sont encore là, sur YouTube. Puis ils l'ont présenté à l'interne. Puis il y a eu des commentaires négatifs. Il y en a eu, mais tout de suite, la direction a vu ça puis a dit non, on coupe les commentaires, on veut pas entendre ça. Là. Ces commentaires-là, on va parler à ces gens-là qui ont des commentaires négatifs. Fait que tu sais, c'est un message haut et fort. On a fait une intégration, puis on est fiers de ça. Ça peut être pour toutes les raisons de la diversité, de montrer haut et fort qu'il y a des exemples concrets qu'on fait. On a adapté un milieu de travail pour une personne avec certaines difficultés, pas difficultés, mais restrictions. Fait que,
montrer les succès, raconter les belles succès, histoires.
C'est ça. De le montrer haut et fort que concrètement, on en a fait, puis on est prêt encore à en faire.
Ouais. C'est sûr que c'est inspirant pour les autres entreprises. Puis aussi l'accompagnement. Je pense que on a beau avoir la volonté, on a beau... Des fois, c'est juste, on sait pas par où s'y prendre. Comment faire? Comment faire pour les trouver, pour les recruter? Comment faire pour au niveau de l'intégration? Il y a beaucoup de questions, de préoccupations. Ça va-t-il être compliqué? Qu'est-ce qui va se passer avec les collègues? Comment ça va? Beaucoup de choses comme ça qui peuvent être démystifiées quand l'employeur est bien accompagné. Puis ça va faciliter vraiment aussi la personne, l'intégration de la personne, le maintien en emploi, puis ça va rassurer l'employeur de savoir qu'il est pas seul là-dedans. Puis autant que ça soit un accompagnement par des organismes comme nous, mais il y a aussi des apports, parce que si on sait bien, tantôt, c'était, je ne sais plus dans quelle autre activité, on parlait de l'argent aussi. Donc, c'est sûr que les chiffres, ça vient aussi parler. Ben, il y a aussi des subventions qui existent pour pouvoir, au niveau des personnes handicapées, c'est à vie de la personne qui est dans l'entreprise, là. Puis on parle d'environ, ça peut être 40-30, mais ça peut aller jusqu'à souvent 50-60% du salaire qui est payé à vie pour la personne pour tenir compte de ce qu'il va avoir comme accommodement que l'employeur va avoir à faire. Donc, tu sais, il y a du soutien, mais c'est juste que les employeurs connaissent, apprennent aussi. Je pense que nous aussi, on a aussi à être plus visibles sur nos activités. Puis le gouvernement peut-être aussi pour faire plus connaître les soutiens que les employeurs peuvent avoir.
Puis une dernière chose que je veux dire aussi là-dessus, c'est comme on pensait aussi penser au positif. Puis je pense que un de mes souhaits, là, c'est qu'on réalise et qu'on pense plus aux différents visages de la compétence. Puis je prends mon exemple personnel parce que je suis autiste. Et souvent, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, par exemple, moi, pour travailler, j'ai besoin d'un casque. Je peux pas travailler sans mon écouteur. C'est juste, je tiendrai pas une journée. Là. Si j'ai pas mes écouteurs, je rentre chez nous, ça sert à rien. Mais pour beaucoup d'employeurs, quelqu'un qui travaille avec sa musique, bah, c'est quelqu'un qui est pas concentré. Sauf que moi, si tu m'enlèves mes écouteurs, je peux pas me concentrer. Fait que des fois, c'est aussi de réaliser que, OK, comment moi, je travaille, ça va être différent de comment une autre personne travaille. Ça veut pas dire que je travaille moins bien. Puis Marie-Isabelle, je pense que tu peux confirmer quand t'étais au CA, là. Ouais. Mais je suis parmi les plus performantes de mon équipe. Mais c'est ça, j'ai besoin de mes écouteurs. J'ai besoin d'un bureau fermé parce que je peux pas s'il y a d'autres choses, tu sais. Fait que des fois c'est ça, puis de voir par contre qu'il y a certaines choses où je vais être largement, sans vouloir souffler dans ma propre trompette là, mais comme je vais être meilleure que certaines autres personnes parce que j'ai une super bonne mémoire. Fait que je vais me souvenir des statistiques. Il y a des choses comme ça où je vais être meilleure dans certains domaines,
oui,
peut-être moins bon.
Oui, bonne mémoire.
Puis tu sais, ça m'arrive aussi au niveau de peut-être pas, je vais faire des liens que d'autres personnes vont peut-être pas faire. Puis tu sais, ça m'arrive le nombre de fois où je regarde des formulaires, où je regarde des systèmes, puis je suis comme, hey, que ça aurait été mieux s'ils avaient donné ça à une personne autiste. Je suis désolée là, mais genre comme, il y a certaines choses où je suis comme, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé, tu sais.
Totalement ouais. D'accord. Nous on a un exemple parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises adaptées, qui sont des entreprises qui ont mis en place des choses aussi, puis qui ont un quota obligatoire du gouvernement de personnes en situation de handicap. Donc tout le milieu est fait pour ça. Puis il me disait dans une des divisions, notre meilleur employé qu'on a jamais eu en entretien ménager, c'était une personne avec un trouble de visuel. Il n'était pas 100% aveugle, mais eh ben oui, c'était le meilleur. J'étais comme, OK. Ils m'ont dit, oui, parce qu'il était obligé de se coller le nez sur ce qu'il faisait pour voir ce qu'il faisait. Fait que je peux vous dire que la petite tâche, il la voyait. Parce qu'il était vraiment aussi très attentif aux détails, parce que justement, ça lui prenait cette attention-là pour faire son travail, étant donné son handicap. Donc, il y avait une attention aux détails, un perfectionnisme qui était probablement justement une qualité qui venait avec le handicap. Donc, effectivement, il faut aller voir la qualité de chacun. Puis même les personnes qui n'ont pas forcément l'étiquette ou en tout cas un trouble qui est connu ou diagnostiqué ou peu importe, même dans chaque individu, on a des forces. Puis il faut miser sur les forces de l'individu au-delà de ses limites.
Ouais, je peux avoir travaillé longtemps dans l'industrie, tu sais. On voit une évolution parce que on dirait que qu'il y a 30, 40 ans, c'est vraiment des cases. Tu sais, le travail, telle personne, faut vraiment que ça soit fait exactement comme ça. Mais on a toute une personnalité, une façon de travailler différente. Puis c'est d'aller au-delà de ces cases-là, qu'on n'est pas des robots. Tu sais, on fait ci, ça, comme ça. Ben non, il y a des gens connus avec autisme léger, on disait Asperger, tout, que côté émotionnel, c'est difficile, mais j'en avais un, moi, qui était super, mais on a de la misère, des gens qui avaient de la difficulté, parce que réagir avec cette personne-là, c'est un peu différent. C'est un peu différent, les autres sont très stricts, eux autres, eux-mêmes, là. Concentrés, tu regardes pas d'un regard directement, ils sont là, tu as l'impression qu'ils sont pas là, mais ils sont là, puis ils réfléchissent, puis ça tourne deux fois plus vite que ma tête à moi. J'habitue, c'est vrai, j'en ai connu comme ça directement, puis j'ai connu mon garçon qui fait ça un peu l'Asperger, puis c'est s'habituer, tu sais, à ce genre de personnes que arrive pas dernière minute, ça marche pas. Essaye de planifier un peu. Tu sais, c'est différent, mais c'est des gens qui peuvent être très performants s'ils sont respectés dans ce qu'ils sont. Peu importe, moi.
Mm-hmm. Absolument. Merci, merci. On a fait du tac au tac, là. selon vous, quel type d'initiative favoriserait un réel bien-être des employés dans une entreprise? Donc là, on rentre un peu plus dans le concret. Puis j'ai des exemples ici que je suis allée chercher. Donc, on parle de tactiques, de quotas, d'approche à court terme, à long terme. Puis aussi, tu sais, un peu pour donner un peu de contexte à cette question, il y a un rapport ici intitulé « Réinventer son avenir en créant de la valeur pour les générations futures ». C'est la perspective du sondage 2022 sur la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'industrie aérospatiale canadienne. Et en fait, il propose 6 formes d'intervention que je vais vous lire. Donc, créer un lieu de travail inclusif et sain sur le plan psychologique, établir des directives officielles, planifier des communications sur la diversité, l'équité et l'inclusion à l'échelle interne et externe, montrer l'exemple, faire preuve de transparence et établir des critères de suivi. Puis j'imagine, en fait, j'ajouterais ça aussi, le partage aussi des données. Tu vois, des fois... Ça peut rajouter. Donc, je reviens à ma première question. Donc, selon vous, quelle de ces initiatives, à moins que vous en connaissiez d'autres, favorise un réel bien-être des employés dans une entreprise?
je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais la formation, sérieusement, je pense que c'est vraiment une des choses qui fait le plus de différence. Parce que je pars du principe que si on veut que les gens fassent un changement, il faut leur expliquer. Parce que moi-même étant une personne un petit peu obstinée, là, mais si on me dit « faut faire ça différent », OK, mais pourquoi? Puis ça, je le vois dans tous les domaines, là, mais notamment, par exemple, OK, on va instaurer des toilettes inclusives. OK, mais si tu n'expliques pas aux gens pourquoi, c'est clair qu'il va y avoir des problèmes. OK, on va avoir plus d'employés issus de différentes diversités. Mais si tu veux que ces employés-là, ils restent, ça veut dire qu'il faut qu'ils se sentent inclus. Si tu veux qu'ils se sentent inclus, ça veut dire qu'ils puissent parler avec leurs collègues. Et si tu veux que leurs collègues les regardent dans leurs yeux et leur parlent, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur. Ça, le truc, c'est quelque chose que je vois souvent, là. C'est dans une entreprise où les gens vont dire, ben, tu sais, j'ai rien contre cette personne-là, mais moi, je ne sais pas comment on est censé parler à une personne trans, à une personne non binaire. J'ai tellement peur de m'échapper, là. Je préfère pas lui parler, comme ça, je suis sûre que je ne vais pas faire de faux pas. Parce qu'à moi, mais ça ne marche pas. Ou des employeurs qui me disent, ben là, je ne suis pas sûre que, tu sais, genre, cette personne-là, cette personne trans, elle a un super bon CV et tout ça, mais. Tu sais, j'ai peur que si je l'amène dans l'équipe, elle va vivre de la discrimination, du harcèlement et tout ça. Fait que je suis pas sûre de l'embaucher. Je me dis, si tu l'embauches pas, c'est la discrimination pareil. Tu sais, ça améliore pas la situation. Fait que souvent, la peur de mal faire va être au cœur du problème. Puis pour enlever cette peur de mal faire, ben, de faire des formations un peu comme j'ai fait tout à l'heure, où on dit, OK, si vous trompez de pronom, c'est pas la fin du monde. Il suffit de faire ça, 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 puis on repart, puis c'est correct. Ça, je pense que c'est une des choses qui peut changer un petit peu les choses.
Moi, je dirais, je ne sais pas si c'est dans la liste, mais la communication. Parce que pour moi, la communication, c'est vraiment large. C'est communiquer sur la réalité des personnes handicapées, des personnes trans, des personnes, peu importe la diversité. Les faire connaître justement ce qu'ils peuvent apporter de positif. C'est aussi communiquer les ressources qu'ils peuvent avoir pour les employeurs, pour les accompagner. C'est communiquer... Et informer les collègues de travail, le milieu de travail, c'est aussi... communiquer, pour moi, c'est aussi oser se parler. Puis justement, souvent, quand on pose des questions, c'est ça qui fait qu'on va briser cette espèce de peur-là, qu'on va apprendre à se connaître. Donc, c'est aussi la communication qui va aussi aider à échanger puis à voir la personne au-delà. Donc, pour moi, je pense que c'est... communication, c'est un petit peu au cœur de tout. Puis ça prend plusieurs formes, là. Ouais.
Il y a des grands enjeux, dépendamment des petites ou grosses entreprises. Hein. Ça varie beaucoup, mais il y a aussi des activités qui est en dehors du travail. C'était populaire à un moment donné, en dehors du travail, pour que les gens se connaissent un peu individuellement. Tu sais, avoir tout le monde peut pas être ami avec tout le monde, mais une activité que tu vas jouer dehors dans quelque chose, n'importe quoi, ça avait été populaire. Là, tu apprends à connaître les gens. Réellement, ils n'ont pas des fois un masque du travail. Tu sais, les sortir, c'est quoi ta vie personnelle, tout. On peut pas passer notre temps durant la journée à parler de ça, mais d'avoir un temps pour justement que les gens puissent échanger leur vie. ouvertement, puis d'avoir l'exemple, tu sais, souvent le dirigeant, la dirigeante, tu sais, cette personne-là, tu sais, devrait avoir beaucoup de formation, justement, sur l'inclusion, la diversité, puis comment amener les gens à chacun à son bien-être différent. T'sais, qu'est-ce que cette personne-là a besoin pour être bien? Avais-tu dans son bureau à coller? Avais-tu collé un contre l'autre? Qu'est-ce qu'elle a besoin pour cette personne-là? Ne pas mettre une étiquette, c'est comme ça, c'est peut-être bureau, c'est ci, c'est... T'sais, d'avoir plus de flexibilité ouvert aux besoins de chaque personne.
Non, je suis d'accord, la flexibilité est super importante. Les personnes en situation de handicap, c'est des petites choses qui peuvent changer leur vie. Un petit détail, le fait de leur permettre de partir une demi-heure avant parce que le transport adapté, ça va être plus facile. Des petites adaptations comme ça qui vont pouvoir amener de la flexibilité. Puis je dirais aussi que, effectivement, la formation, la sensibilisation, mais que ça soit aussi vécu et véhiculé à tous les niveaux de l'entreprise. Parce que des fois, c'est porté par, genre, le directeur général qui va dire, ben là, on fait ça. C'est beaucoup reposé dans les mains des RH parce que c'est eux qui recrutent puis qui ont le mandat de dire, on veut plus de gens de diversité, ils recrutent. Mais, selon la structure, les RH, c'est pas eux qui prennent la majorité du temps, c'est pas eux qui prennent la décision finale du recrutement. Eux, ils vont faire un screening, ils vont faire les entrevues, puis après, ça va reposer dans les mains du gestionnaire. Mais si le gestionnaire, il y croit pas lui aussi, ou qu'il y a des peurs, qu'il n'a pas pu être, il n'y a pas eu de formation ou d'approche là-dessus, qui reste avec des peurs, des craintes, qui ne sent pas qu'il est accompagné pour la venue de cette personne-là, par les limitations qu'elle a ou par ses préjugés, ben peut-être que ça va bloquer au niveau du gestionnaire. Puis même si les recruteurs ont la meilleure envie du monde de vouloir recruter des gens de la diversité, il faut vraiment que ça soit vécu. Puis une fois que la personne, il faut aussi que ce gestionnaire-là le fasse descendre aussi à ses employés, son équipe, dire là maintenant il y a telle personne, comme tu dis, il faut pas accepter certains comportements, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une ligne aussi qui va jusqu'à l'équipe. Donc vraiment que ça soit quelque chose qui soit porté et qui soit réellement, c'est toutes les personnes de l'entreprise là, qui doivent vraiment être ouvertes à ça puis sensibiliser.
Après, je reviens, c'est une chose difficile, mais de bien choisir les gestionnaires. qu'il y en a des fois qui sont très, très compétents techniquement, puis ils n'ont pas le côté humain pour englober tout ça. C'est un gros défi pour les entreprises. Tu sais, j'en ai eu des exemples. Puis ça a un gros impact.
Oui.
Ça a un impact majeur. Je pense qu'il faut que l'industrie se dise, OK, le gestionnaire, mais c'est pas juste de connaître le milieu technique. Là, ça prend pas juste d'être juste MBA non plus. Il faut pas aller à l'autre extrême. Il y a quelqu'un capable de rassembler les gens.
Mm. Voilà. Bien, en fait, j'aimerais rajouter sur cette question-là, puis je pense que c'est très beau ce que tu dis, Marie-Isabelle, sur les gestionnaires. C'est qu'on parle beaucoup d'intégration, de recrutement, mais il y a aussi de l'évolution au sein d'une entreprise. T'sais, c'est pas juste d'entreprendre un poste, un emploi, mais d'évoluer, de gravir les échelons d'une entreprise. Et donc, évidemment, le poste va évoluer, les responsabilités, puis peut-être de se retrouver en position de dirigeant. Puis, en fait, on en a besoin aussi des dirigeants qui sont issus de la diversité, etc. Donc, est-ce que vous avez, mettons, des témoignages ou des observations là-dessus aussi, sur cette progression au-delà de juste le recrutement?
Je sais, dans mon entreprise, il y avait beaucoup de programmes de mentorat, justement.
Ah, OK. Ouais,
il y en a eu beaucoup, des gens qui disaient, OK, il y a du potentiel. Fait qu'ils faisaient, ils disaient, OK, ils donnaient de l'expérience dans différents départements pour évoluer, justement, au sein de l'entreprise, mentorat avec des gens qualifiés. Je sais que ça existe beaucoup, dans la compagnie actuellement.
Mm-hmm. Ça, c'est Pratt & Whitney.
Pratt & Whitney. Là,
donc, une compagnie à grande échelle.
Grande échelle. C'est gros, là, par exemple. C'est sûr, mm-hmm. c'est pas la même chose d'un petit PME.
Ouais,
c'est une autre histoire.
Puis autant, je vais vous laisser aussi répondre, mesdames, mais tu sais, Pratt & Whitney, c'est une compagnie aussi à l'échelle internationale. Donc, comme tu avais dit, Marie-Isabelle, ils sont installés ou ils vendent dans plusieurs autres pays. Donc, l'aspect diversité aussi de culture, de langue, on doit la retrouver aussi. Puis est-ce qu'elle est intégrée aussi, tu dirais, à tous les échelons aussi?
Oh, oui, pas mal. Puis j'ai vu beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans les hautes directions. Ça a évolué beaucoup dans les 10. On a une présidente qui est là depuis plusieurs années, qui a fait son évolution au sein de l'entreprise elle-même. Et puis, on en voit beaucoup. Fait que, ça change aussi l'aspect. En ayant une femme, c'est sûr qu'elle fait du mentorat pour justement intégrer plus de femmes équitablement un peu partout. Mm. Moi, je suis certaine qu'elle a eu un gros impact là-dessus. Parce que ça a été beaucoup un milieu d'hommes, principalement.
En aérospatial.
Oui, oui. Puis là, de plus en plus, on voit de la diversité. C'est sûr que ça a tout le temps été multiculturel. Incroyable. J'ai connu ça jeune. C'est bon, on a des gens de plusieurs différentes cultures, pays, sont installés dans plusieurs pays aussi. Ça, quand même, c'est quand même très ouvert. Ce côté-là, je trouve que ce côté-là est très positif. Hein?
Mais sur l'importance, je dirais, d'avoir des gestionnaires aussi qui sont issus de différentes communautés. Ça, on le voit au niveau des biais inconscients, là. C'est juste le biais du statu quo, là, où comme on va avoir tendance à le biais d'affinité, en fait, plutôt. Ben, le biais du statu quo, un petit peu aussi. Mais dans le fond, on embauche les gens qui nous ressemblent. On promeut les gens qui nous ressemblent. Et on aime bien garder ça comme c'est. Fait que ça, forcément, ça fait qu'on a un milieu plus homogène où on va avoir du mal à avoir justement des personnes qui diffèrent un petit peu. Puis, ce qu'on va voir, c'est que si on a justement des personnes un petit peu plus diversifiées, plus haut, ben, le reste va changer. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de diversité en bas de l'échelle. Mais tout le reste, puis ça, c'est justement... on en a parlé un petit peu ce matin, là, mais c'est tout le reste, c'est très, très homogène. Puis là-dessus, je dirais aussi que se méfier quand même, c'est pas la solution miracle. C'est pas parce qu'on va mettre justement, donc pas tomber dans le tokenisme, on va mettre une personne en diversité là-haut, puis essayer qu'elle se débrouille toute seule pour tout changer le monde. Et que même les personnes qui font partie de communautés marginalisées peuvent être biaisées contre leur propre communauté. Malheureusement, on sait que même les femmes qui sont en charge de recrutement peuvent avoir des biais contre les femmes quand elles recrutent. Fait que c'est important de juste pas partir du principe que oh, c'est une personne de telle communauté, fait qu'elle va changer le monde de l'EDI, mais aussi justement l'outiller, la former, etc., lui donner les outils pour accompagner cette connaissance d'expérience vécue avec peut-être des connaissances en gestion, en EDI, etc., etc.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est sûr que c'est un des nerfs de la guerre de dire c'est beau, on travaille beaucoup sur le recrutement, embaucher, mais la partie évolution, la partie c'est ça, promotion et maintien d'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas encore au même niveau, je dirais, que le recrutement. Puis pour les personnes handicapées, je pense qu'on n'est même pas encore rendu là. On est encore en train d'essayer de repousser les portes pour que les gens puissent entrer en entreprise. Donc, alors que dans d'autres types de diversité, les femmes... Ça va quand même relativement bien, ça dépend des industries, mais en tout cas, de plus en plus, comme tu disais, de gestionnaires. Les personnes immigrantes, ils ont encore des obstacles, mais on en voit de plus en plus qui évoluent, même s'il y a toujours des obstacles, mais sur les personnes handicapées, ça reste que même à la porte d'entrée est encore difficile à ouvrir, là. Fait que c'est pas aussi uniforme ou égal selon les diversités aussi, là. Fait qu'on peut pas tout traiter au même titre que chaque diversité, puis chaque individu au-delà de la diversité est unique, mais aussi, quand on parle de grands groupes de diversité, il y a aussi on n'est pas rendu à la même place dans chacun des types de diversité.
D'accessibilité, oui, avec des chaises roulantes. Pour... J'en connais des gens personnellement, justement, tu sais, qui ont eu des accidents, quoi que ce soit, des maladies, puis qui sont capables de continuer à travailler. Mais j'ai une sœur qui est en chaise roulante, puis elle a des limites partout. Elle va quelque part, il faut qu'elle s'informe. Il faut toujours qu'elle s'informe avant d'aller à tel restaurant, aller à telle place, à tel hôtel. C'est-tu possible? Parce qu'on n'est pas rendu là au Québec. Mm-hmm. Avec toutes les vieilles compagnies qui sont bâties il y a plusieurs années, elles ne sont pas adaptées pour les...
Et encore que quand c'est un handicap comme ça, ils peuvent avoir une subvention, un soutien financier pour installer une rampe, par exemple. T'sais. Puis après, ça va peut-être régler le problème. Mais il y a d'autres types de handicaps qui vont... toujours perdurer, qui vont demander plus d'adaptation ou qui sont invisibles, comme la santé mentale, qui sont pas forcément, ou tout ce qui est neuroatypie, qui est pas forcément visible. Donc, c'est encore plus difficile de dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment? Puis chaque individu a sa spécificité dans sa maladie ou sa neuroatypie. Fait qu'il y a des choses qui sont encore, ou justement, c'est encore un niveau de plus. Je dis pas qu'effectivement, il y a beaucoup de trucs à faire aussi sur l'accessibilité des lieux et des postes de travail, mais même ça va encore au-delà, les personnes handicapées, ça aussi, c'est une réalité à faire connaître. C'est pas juste les chaises roulantes, les chiens guides, puis le braille, puis les cannes blanches, là. C'est beaucoup plus large que ça.
Ouais. Mais parce que c'est encore, l'EDI est encore en train d'évoluer, de s'agrandir.
Puis une chose qui aide, que je ne sais pas si on avait mentionné, avec un manque de main-d'œuvre partout, ils sont obligés d'aller gratter un peu partout, comme je dis, là. C'est peut-être une mauvaise expression, mais.
Moi, je dis ça ouvre les chakras.
On se demande si ça n'a pas un impact positif.
Oui, je dis que ça ouvre les chakras. Ouais. Ça l'a fait, ça oui, effectivement, il y a une grosse différence aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. Ça a un impact positif sur. Ouais.
Eh bien, sur cette note d'espoir, ça conclut notre temps aujourd'hui pour notre troisième épisode de Paroles inclusives sur l'évaluation de l'impact de l'équité, la diversité et l'inclusion, la voix des collaborateurs. J'aimerais remercier nos intervenantes et je salue votre partage et votre ouverture à cette discussion stimulante. Merci beaucoup. J'espère que vous pourrez profiter à tout le monde ici présent du restant de la journée ici à Horizon et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, à un prochain épisode. Il m'a fait un grand plaisir d'animer Paroles inclusives. Je suis Vanessa Neal. Merci beaucoup et à bientôt!